Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois.
Bonjour à tous.
Et aujourd'hui, mon frère...
Nouveau podcast.
Et on a...
Le radiateur
qui salue aussi les auditeurs du podcast. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, vous le voyez parce que du coup, vous avez la caméra, logiquement.
Vous avez quatre caméras pour vous encore aujourd'hui.
Oui, exactement. Et on est chaudement habillé. On est chaudement habillé parce que le chauffage, c'est toujours pas trop ça au gym. Ça va arriver, mais pour le moment, on est encore dans les travaux. Et même si on a un radiateur, vu comme on a fait pas mal de petits travaux avant, on se pèle encore un peu le cul.
Mais c'est-à-dire que ça rentre dans les finitions en fait du Gallo Gym, parce que les machines, ça c'est bon, d'accord ? Oui. Maintenant la cuisine, ça c'est bon, mais tout ce qui est déco, tout ce qui est, vas-y que je te mets les petites lampes, c'était le travail du jour, ouais. Vas-y que je te mets, qu'est-ce qu'on a mis bah une là, étagère.
Regarde. Ah putain, on a quelque chose dans le décor aujourd'hui, on a un pot de whey isolant. Native à la vanille.
Ouais, exactement, je le pique.
C'est vrai.
Je le pique et je les ramène chez moi. Mais voilà, c'est les finitions du Gallo Gym, c'est des trucs méga longs. Et en plus, ça ne se voit pas, on en a déjà parlé. C'est vraiment les trucs...
C'est les trucs qui cassent les couilles.
Et vous avez peut-être aussi dans le décor le tableau blanc derrière vous qui sera exploité sans doute dans le podcast ou dans les prochains lives ou dans les prochaines vidéos. Bref, il va être rentabilisé comme toutes les choses qu'on a mis ici.
Exactement, on ne fait pas les choses sans rien. Mais mon frère... Dans cet épisode, on va parler de plusieurs petites choses. Ça va dépendre du temps. Déjà, on va faire un petit retour sur la dernière vidéo. Et là, je suis désolé, j'annonce, vous allez vous prendre une sauce turbo-piquante.
On en a parlé.
Je l'ai annoncé, ça va turbo-piquer. Ensuite, on verra, en fonction du temps qui nous reste, soit, du coup, on parlera de comment calculer sa dépense énergétique, comment calculer sa maintenance calorique. Soit, du coup, si on a un peu plus de temps... On verra également pour parler du sommeil et comment l'optimiser parce que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent et on vous donnera des petits tips au final pour le sommeil. Mais vu comme ça, c'est quelque chose qui englobe beaucoup de temps, on verra, ça se trouve, ça sera dans le prochain podcast et si jamais, ça partira peut-être dans les oubliés.
Non, parce que franchement, on a bien rattrapé tout ce qu'on avait dans les questions.
On n'a pas rattrapé beaucoup.
Il y en avait quand même quelques-unes qu'on a...
Bon. On ne va pas perdre plus de temps, mon frère. On va parler du dernier épisode du podcast. Le dernier épisode du podcast, eh bien, étonnamment, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le podcast qui a fait les meilleures stats en termes de commentaires. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de commentaires sur les premières 24 heures du podcast sur YouTube.
Mais parce que c'est fait exprès aussi, je pense.
Et quand on regarde, eh bien, les commentaires sur, du coup, peut-être, eh bien, environ... Si on prend 20 commentaires, il y en a 15 qui ont le même putain de sujet. Et ce sujet, mon frère, c'est quoi ?
C'est ta belle coupe de cheveux.
C'est ma belle coupe de cheveux. Effectivement, le seul truc qui vous importe, c'est ma putain de coupe de cheveux.
Ou mon niveau laser aussi.
Ou le niveau laser. Donc la moralité de tout ça, c'est qu'au final, si on veut que nos podcasts y percent, Rémi...
Il faut avoir des coupes de cheveux de merde.
Attends, t'es en train de dire que j'ai fait une coupe de cheveux de merde ?
Non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, moi je dis que tu l'as fait exprès d'avoir cette coupe de cheveux et que du coup, c'était pour avoir plus de référencement.
Non.
Mais j'essaie de rattraper le truc.
On va mettre les putains de choses au clair. On va mettre les putains de choses au clair. Parce que là, ça va pas du tout. Avec Rémi... On fait des podcasts, on donne un maximum d'informations.
C'est trop drôle.
Il faut savoir que tous les commentaires qui sont postés sur les 48 premières heures, j'y réponds à chaque fois. Parfois, il y a des débats qui sont très intéressants. Parfois, ça permet d'aller un peu plus loin. Et au final, j'ai envie de dire, vous, les auditeurs, vous avez la chance de pouvoir, entre guillemets, poser vos questions, avoir des réponses, etc. en lien avec le podcast. Et bordel, qu'est-ce que vous en faites ? Vous critiquez ma putain de coupe de cheveux ?
Voilà.
C'est quoi ce bordel ?
Voilà dans quel état vous le mettez.
Surtout que, mais putain, mais qu'est-ce que j'en ai à battre de ma putain de coupe de cheveux ? Le truc, c'est vrai, j'avais des putains d'épis. Juste avant, on avait fait des travaux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu crois que c'est ça qui va m'arrêter, qui va me dire que je vais pas faire des putains de podcasts? Mais en plus, attends, à ce moment-là, on n'avait pas de glace. Il faut savoir un truc. J'ai vécu 4 putains de mois dans le gym. Ça fait 4 putains de mois que je suis dans le gym. Et on vient juste de mettre des putains de miroirs. Ça veut dire que j'ai pas vu ma sale gueule pendant 4 mois. Donc tu crois que c'est pas un petit épi de merde que j'ai pas vu? Je l'ai vu au montage. Tu crois quoi? Que j'allais le couper, que j'allais le fouetter? Mais non, je m'en bats les couilles. C'est beaucoup plus important que ça pour moi de partager le podcast, de partager de l'information. Mais non, ça parle de ma putain de coupe des cheveux!
Pour de vrai, en plus, à la fin du podcast, là, du précédent podcast, tu m'as dit, mais t'as vu ma gueule? J'aurais pas pu me le dire.
C'est vrai.
Mais moi, je fais même pas gaffe parce que quand on a fait l'épisode de reprise, j'avais pas une petite coupe de cheveux, j'avais la tignasse, mon gars. J'avais une coupe de cheveux de ouf. Je me dis, ah, ça va faire dégueulasse l'écran. Mais en fait, on s'en fout. Mais par contre, toi, ta coupe de cheveux.
Mais en vrai, je trouve que pour être un peu plus sérieux, voilà, je le prends à la rigolade, hein, je m'en bats les couilles. Mais il y a quand même, je pense, quelque chose de profond derrière tout ça. Et c'est-à-dire que moi, effectivement, bon, bah voilà, j'étais pas coiffé, ça me pose pas de problème, j'ai quand même publié le podcast. Et honnêtement, ça aurait été le Denis d'il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé à faire de la création de contenu. Je pense que, après avoir vu ça au montage, j'aurais pas publié le podcast.
Ah ouais, ouais.
J'aurais pas publié le podcast parce que j'avais ce côté perfectionniste. Et au final, ouais, à cause d'un putain d'épi, c'était plus qu'un épi, ok, c'est bon, j'avoue. Mais à cause de ça, en fait, j'aurais perdu déjà plusieurs heures de travail. Et surtout, en fait, j'aurais pas pu partager ma passion, j'aurais pas pu faire ce que je veux. Et au final, ce côté perfectionniste à l'extrême, c'est quelque chose que j'ai su contrôler au fil du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, dans de nombreux domaines de la vie, au final, se mettent des barrières, ne se lancent pas, uniquement parce qu'elles attendent d'avoir tous les astres qui s'alignent et que tout soit parfait. Spoiler, ça ne sera jamais parfait. Et il y a beaucoup de personnes qui, ça se trouve, tu vas te reconnaître dans, pas forcément peut-être en muscu, mais dans peut-être d'autres choses que tu vas entreprendre, eh bien, au final, tu ne le fais pas parce que pour toi, c'est pas parfait. Et j'espère que, tu vois, avec toute cette rigolade que j'ai fait autour de ma coupe de cheveux autour du dernier podcast, tu pourras comprendre que, au final, c'est pas parce que c'est pas parfait que ça peut pas fonctionner. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait pas... Enfin, sérieux, il y a aucune personne, j'en suis sûr de la stat, il y a 100% des personnes qui ont regardé le podcast, il y en a pas un qui s'est dit... Putain, cet enculé, il a une coupe de cheveux de merde, je me barre. Tu vois, il y a personne qui s'est dit ça, il y a personne qui a fait ça. Juste, oui, les gens en ont rigolé, mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Et comme je te dis, le Denis d'il y a 3 ans, lui, ça l'aurait complètement bloqué et il aurait pas publié. Et ce que je veux dire par là, c'est que toi aussi, peut-être que tu peux être dans la même situation, tu peux avoir ce blocage du coup du perfectionnisme et ça peut te bloquer dans certains de tes projets. Et encore une fois, le but de ce podcast, c'est toujours de tirer des petites moralités et d'en tirer des choses positives. Et du coup, dans cette rigolade qui n'est même pas au final négative, j'essaie de te prouver qu'il y a quand même un peu de positif.
Moi, ça me fait penser, tu sais, à la personne qui veut se lancer dans un projet et qui attend d'avoir la super caméra ou qui attend d'avoir le super matériel pour se lancer dans la production. Alors, en fait, non, t'as pas besoin de ça pour commencer à produire. Donc, la morale derrière tout ça, si on extrapole vraiment le truc et qu'on tire un petit peu sur la morale, c'est que on s'en fout en fait de comment l'image que tu dégages, etc. Si toi, ce que tu as envie de partager et que le contenu est OK et que tu as envie de le montrer, fais-le. N'attends pas d'avoir ce petit artifice en plus, d'avoir ce petit truc superflu qui ne va pas apporter tout de suite de la plus-value. Si tu as un truc à faire, tu le fais. Le podcast, on le connaît, c'est le podcast à la bonne franquette. Les tout premiers épisodes, on les a fait en visio, chacun de notre côté. J'avais un bonnet sur la gueule, j'avais une caméra. J'étais malade, j'avais une caméra dégueulasse. Le son était pourri, c'était le son de mon ordinateur. Bref, on s'en foutait parce qu'on s'est dit... On lance la cam et on y va. Et on verra ensuite, on améliorera au fur et à mesure. On a commencé avec notre caméra chacun de notre côté, notre ordinateur, donc voilà, caméra dégueulasse. Et aujourd'hui, on tourne à 4 caméras parce que petit à petit, on a aussi amélioré les choses. Et ça, c'est en fait, dans n'importe quel domaine, n'attends pas d'avoir le setup idéal pour te lancer.
Ouais. La petite comparaison qu'on pourrait faire, tu sais, c'est comme quand tu es dans un début de relation avec une meuf, tu vois. Au début, quand tu vas coucher avec elle, eh bien, tu fais toujours en sorte que tu aies les couilles bien rasées. Et ça, ça marche toujours les premières fois, tu vois. Et il y a forcément un moment où, je sais pas, vous allez partir sur un week-end imprévu, etc. Et il va y avoir une petite repousse. Tu vois, ça ne sera pas parfait. Mais est-ce que pour autant, il ne va rien se passer à cause de ça? Non. Et après, ça sera OK. Tu l'accepteras beaucoup mieux, tu vois, si tu as un petit truc. Mais c'est sûr qu'au début, surtout quand tu te lances dans quelque chose, quand c'est le début de quelque chose, tu veux toujours que ça soit parfait. Et au final, ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça fonctionne.
Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que ça fonctionne. C'est tout à fait ça.
C'est une belle morale. Hein.
Une très belle morale. On part des cheveux, de la découpe.
Ça reste dans l'univers capillaire.
C'est très,
c'est
très
pour ça que la comparaison avec les poils de couille.
Une belle analogie, vrai. Encore une fois. Bon, encore une fois, voilà, ça aussi, pour encore tirer sur les choses, c'est que le podcast, on l'a déjà dit de multiples reprises, on se brief 5 minutes pendant le repas, juste après on tourne le podcast, il n'y a rien de préparé. Ouais. On lance la cam et on y va. Et je crois que c'est aussi ça, alors on ne dit pas qu'il faut faire ça pour absolument tout, mais quand tu as envie de te lancer dans un projet, n'attends pas d'avoir le script parfait, n'attends pas d'avoir la bonne accroche, vas-y, teste. Teste, et après, regarde les retours et tu vas t'améliorer. C'est comme tout, quand tu apprends une leçon, à la première lecture, tu ne la sais pas par cœur. Mais c'est en répétant, en relisant, en écrivant, bref, en la travaillant plusieurs fois, que tu vas vraiment apprendre à te l'imprégner. Et c'est la même chose pour n'importe quelle chose que tu fais.
De toute façon, en fait, je pense aussi que c'est justement dans la difficulté que naît la passion. Et si tout est facile, si tu réussis tout du premier coup sans difficulté, je pense que tu peux pas t'y accrocher, tu vois. Ce que je dis souvent, c'est que pourquoi aujourd'hui je suis aussi passionné par la musculation, c'est tout simplement en fait parce que j'en ai chié pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et tu regardes, au final, c'est parce que j'étais pas avantagé de base que j'ai dû renforcer mes connaissances pour pouvoir réussir à progresser. Et au final, c'est justement parce que j'ai dû chercher à améliorer mes connaissances, que petit à petit, je suis tombé toujours de plus en plus amoureux de cette discipline, de ce sport. Et si ça avait été facile, tu vois, genre, si par exemple, en allant à la salle, j'aurais pris, 20 cm de tour de bras en un an, je pense que je n'aurais pas du tout ce même amour pour ce sport et je n'aurais pas du tout cette même, si tu regardes mes vidéos, mes vlogs d'entraînement, tu le vois, quand je m'entraîne, j'ai la hargne, je veux progresser. J'aime ça, tu vois, c'est ma passion. Quand tu sais que tu peux au final obtenir quelque chose facilement, les choses ont tout de suite beaucoup moins de saveur et tu t'y accroches beaucoup moins et surtout tu y accordes beaucoup moins de valeur. Je veux dire, si pour toi c'est facile de prendre 1 cm de tour de bras, ça aura toujours beaucoup moins de valeur que pour quelqu'un pour lequel c'est difficile de prendre 1 cm de tour de bras. Donc, justement, pour en revenir à ce qu'on disait de base, les choses seront toujours difficiles, mais tu te casseras sûrement un peu les dents, mais c'est justement parce que c'est difficile que tu pourras tomber encore plus amoureux du processus et aimer encore plus ce que tu cherches à faire. Donc, ne te pose pas de barrière. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe le domaine, que ce soit comme nous là, de la création de contenu ou même d'autres choses, notre passion, ça peut être, de la soudure, des trucs comme ça. J'y pense parce que moi, c'est ce que je fais à côté. Mais voilà, n'aie pas peur de te lancer.
On est trop fort quand même pour à chaque fois tirer des morales de situations incongrues. Et pour le coup, on arrivera toujours à relativiser, à sortir et à extraire en fait la morale ou le côté un peu positif des choses. Mais en fait, c'est hyper transversal à la musculation. En fait, tout ce qu'on décrit, tout ce qu'on fait, on arrive à le retransposer en musculation. Et ce côté, c'est pas parfait. Tu n'as pas le physique parfait, mais tu vas travailler pour l'améliorer. Enfin, c'est ça. Bref.
Non, mais c'est vrai. C'est un sujet passionnant. Et cette capacité, je pense, que l'on a transformé le négatif en positif, c'est toujours quelque chose qui... En fait, la vie m'a appris que tu pouvais toujours transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Mmh. Et les choses négatives passent beaucoup mieux comme ça. Et c'est vrai, tu peux te faire enculer une fois. je sais pas si je peux continuer avec cette analogie.
Non, mais c'est que tu arrives toujours à tirer des conclusions, peu importe la situation.
Voilà, c'est ça.
À partir du moment où tu n'es pas trop con et que bah, tu arrives à comprendre le problème et que tu arrives la fois d'après à ne pas retomber dans ce problème-là, c'est que tu as réussi à tirer des conclusions positives.
Ouais, non, alors, je me suis arrêté parce que j'ai reçu les... YouTube, il a commencé à tilter un peu sur mes vidéos et surtout dans mes vlogs. Je suis obligé de flouter un peu, enfin, biper les insultes. Donc maintenant, putain, j'espère que d'ailleurs le début du podcast va pas être sans... Oh, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, très bien, on va changer de sujet, mon frère.
Bon, mon frère. T'es en forme, hein, putain.
De quoi tu veux parler maintenant ?
Eh bien, on peut parler du calcul de la dépense et de nos apports, nos besoins journaliers.
On peut parler de tout ça.
En tout cas, pour le sommeil, le deuxième thème, c'est un sujet qu'on va vraiment aborder. Je pense pas qu'on passe aux oubliettes celui-ci parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité pour le coup, pour nous deux, hein, alors depuis qu'on a commencé le gym, parce que vous en doutez, les journées sont très longues et la récupération, le sommeil, notre hygiène autour de tout ça, elle est vraiment optimisée. Pour le coup, on a plein de tips à vous donner, enfin plein de tips, des choses qu'on applique et peut-être que ça, vous allez pouvoir en tirer aussi des choses pour vous, mais on en reparlera plus tard.
Du coup, si on n'en parle pas dans cet épisode, bah, si tu ne veux pas rater le prochain,
pense à t'abonner.
Abonne-toi. Mmh.
Et on a encore oublié le référencement au début de podcast. On a dit, c'est les premières minutes d'écoute, il faut que les gens puissent…
C'est vrai. Si vous aimez le podcast, vraiment si vous aimez le podcast et que vous voulez faire vivre le podcast, n'hésitez pas à juste mettre un petit like sur le podcast, mettre 5 étoiles sur le podcast en fonction de la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez. Et
n'hésitez pas à dire aussi que Denis a une belle coupe de cheveux aujourd'hui, qu'il a pris soin.
J'ai même coiffé. Je ne me suis même pas coiffé, je n'ai même pas regardé. Honnêtement.
Et ben voilà, t'es con parce que ça veut dire que tu n'as pas tiré les conclusions du truc.
Non, en fait, ça prouve que j'en ai complètement rien à foutre. Bah, c'est vrai. Enfin, je veux dire, non, mais c'est pas…
Mais oui, c'est un truc qui est… C'est futile, je veux dire, c'est pas…
C'est ça. En fait, c'est très simple. Si je devais faire à chaque fois attention à comment, du coup, je vais m'habiller, comment je suis coiffé, la gueule que j'ai, à chaque fois que, du coup, je vais faire une vidéo ou un podcast, le truc, c'est qu'il n'y aurait pas de podcast. Parce que là, avant, on était à fond dans les travaux. Il y avait un gars qui était là pour, du coup, pareil, le gym, des devis, machin, etc. Après, du coup, on a pas mal de boulot et en fait, si juste je prends le temps nécessaire pour me coiffer, pour bien m'habiller, pour machin, etc., bah, en fait, vous pouvez avoir un podcast, mais c'est un podcast de 10 minutes, tu vois. Et c'est pas ça que moi j'ai envie. Pourtant, tu vois, à côté de ça, je suis le mec qui va mettre du déo 4 fois dans la journée dès que je vais avoir l'occasion. Ouais, je vais mettre toutes mes crèmes du visage le matin et le soir, machin et tout. Mais par contre, quand il faut faire le taf, tu vois.
En fait, c'est que quand la journée commence, on cherche à la rendre la plus productive possible.
Ouais, c'est ça.
Genre, donc voilà, tout doit s'enchaîner, tout doit être rapide, bien fait, bien entendu, mais tout doit être bien enchaîné.
La liste des choses à faire, elle est aussi longue que ma bite. Je peux te dire que, bah voilà,
petite, non?
Ça va encore. Non, allez, faut que j'arrête. Putain, faut que
je. Les analogies au sexe, là, aujourd'hui, c'est pas mal.
Ouais, mais alors, tu te dis, c'est un truc très drôle. J'ai fait quelques vidéos comme ça où, sur les réseaux où, en fait, c'est très simple. Si je fais une allusion au cul et que je parle de muscu, c'est banger. Ça fait 200, 300 000 vues. Donc, effectivement, c'est vrai que j'ai remarqué que ça marchait pas mal. Et si tu regardes depuis ça, parce que j'ai fait une vidéo sur. Je sais pas si tu l'as vu, sur la force au développé couché et la taille du pénis.
Ah si.
Tant de dire que forcément ça a marché. Et du coup, depuis, si tu regardes mes vidéos, c'est vrai qu'elles sont un peu plus crues dans le langage et il y a un peu plus de références à ça. C'est triste, en fait, on doit ça. L'algo transforme mes paroles, mais en même temps, ça me permet. C'est comme ça que je suis dans la vraie vie aussi, tu vois. Genre, c'est pas comme si je me forçais. C'est-à-dire qu'avant, je me bridais et que maintenant, je me bride un peu moins.
Oui, mais c'est ça aussi. podcast de l'authenticité. Et si tu peux l'être autant dans tes shorts ou dans tes réels, ou... enfin, c'est normal aussi. C'est là où tu te sens le mieux, donc tu ne vas pas faire semblant avoir une autre personnalité quand tu es en vidéo. Non. Ça, c'est le gros de deux, ça.
Bon, Rémi, les gens vont se plaindre que l'intro est trop longue, là.
On avait dit qu'on faisait
des efforts, ouais, putain.
Bon. Au bout du troisième podcast de reprise, on n'arrive pas à tenir le deal, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est de ta faute. Bon, on va parler de la maintenance calorique. Mon frère, peut-être définir un peu ce qu'est la maintenance calorique et donner du contexte autour de ça pour comprendre en fait l'intérêt peut-être de connaître cette maintenance calorique.
Bah, la maintenance calorique, c'est vraiment pour déterminer ce que vous allez pouvoir mettre dans votre assiette au fil de vos repas de votre journée. C'est un calcul mathématique que vous pouvez retrouver sur n'importe quel calculateur sur Internet qui va prendre en compte votre métabolisme de base et après votre coefficient d'activité.
Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Genre, quel est l'intérêt de connaître sa maintenance énergétique? En fait, la maintenance calorique, si tu veux, ça va être le nombre de calories que tu vas pouvoir ingérer. Et en ingérant ce nombre de calories, ton poids va rester stable.
Ah oui, voilà. Oui.
Et en fait, si tu manges plus que ta maintenance calorique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans une situation qu'on va appeler le surplus calorique. Et donc, en général, tu vas prendre du poids. Et ce n'est pas en général, c'est tu vas prendre du poids. Et si au contraire, tu manges en dessous de cette maintenance calorique, eh bien, tu vas être dit en situation de déficit calorique et donc tu vas perdre du poids.
Effectivement, le maintien, ça porte bien son nom. Maintien, ça veut dire que tu maintiens quelque chose. Donc ici, on parle du maintien des calories. Donc, c'est pour ne pas prendre ou ne pas perdre de poids.
C'est ça. Et du coup, en fait, en fonction de ton objectif, c'est intéressant de connaître ta maintenance calorique, parce que justement, en fonction de si tu veux perdre du gras ou prendre du muscle, eh bien, il va falloir que tu sois en situation de déficit ou surplus calorique. Et donc, la connaissance de ta maintenance, qui va être un peu le seuil d'équilibre, eh bien, ça va être déterminant pour toi pour savoir où se situe la limite entre le déficit et le surplus calorique.
Ça me fait pas rire, mais c'est vrai que tu dis prise de poids, mais perte de gras. Tu dis pas perte de poids, prise de poids.
Je dis prise de muscle et perte de gras.
Ouais, mais c'est bien parce que du coup, c'est vraiment vers ça, enfin vers quoi on tend, mais perte de poids, prise de poids. Et alors que poids, tu l'adaptes en fonction du contexte, si c'est en déficit ou si c'est en prise de poids.
Ça dépend. Je pense que ouais, je dis les deux aussi. Je pense que c'est l'habitude de faire des vidéos et d'éviter les répétitions.
Mais et puis surtout que c'est vers quoi on tend, si tu veux. Si tu veux perdre du poids, pour le coup, c'est pour perdre ton gras, mais pas ton muscle. Donc, c'est pour ça que perte de gras, c'est plus…
Tout va dépendre. Bien sûr, on part du principe que si tu écoutes le podcast, on sait que tu t'entraînes, tu vas à la salle, tu fais de la muscu. Pour une personne qui, par exemple, ne ferait pas de sport, c'est sûr qu'être en surplus calorique, il y a quand même peu de chances que tu fasses du muscle. Il y a quand même de grandes chances que la majorité du poids que tu prennes soit du gras. Et de la même façon, si tu ne fais pas de sport, eh bien, à moins… Alors, tu vas forcément garder un peu ta masse musculaire, mais pas autant que du coup si tu faisais du sport. Bien sûr, ça part aussi du principe que tu gères la nutrition. Mais voilà, il y a quand même des choses qu'il faut bien comprendre. Et du coup, forcément, ce qu'on va dire va être adapté aux personnes qui s'entraînent.
Oui, bah, bien sûr. C'est le principe du podcast aussi de parler au go muscu. Donc, c'est vrai que le maintien calorique, calculer ça, c'est vous assurer aussi un point de départ. Parce que forcément, le maintien calorique, on y viendra après, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps en fonction de votre objectif, en fonction aussi de votre activité à côté aussi. Enfin bref, c'est quelque chose qui va être à moduler dans le temps. Mais le maintien calorique, on va dire que c'est le point de départ sur l'évolution dans un sens ou dans un autre de vos besoins journaliers.
Mmh. Et du coup, donc pour enchaîner un peu et continuer, en gros, ta dépense énergétique, tu vas pouvoir la calculer de plusieurs façons, mais surtout, en fait, cette dépense énergétique, elle va regrouper plusieurs groupes. C'est-à-dire que dans ta dépense énergétique totale, tu vas retrouver du coup, les calories qui vont être dépensées par ton métabolisme de base, les calories qui vont être dépensées du coup, par ton activité physique volontaire, les calories qui vont être dépensées par ton activité physique involontaire. Mmh. Et également, il y a une dernière catégorie qui va être eh bien, ce qu'on va appeler l'effet thermique des aliments. Et on va peut-être détailler chacune de ces catégories pour que tu puisses bien comprendre. Et après, on te donnera eh bien, des méthodes pour calculer, on va dire, cette dépense.
Ouais, mais même, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne commencerait pas par essayer de trouver déjà la méthode? Parce que des calculateurs clés en main, vous en avez, comme je disais, partout en ligne. Il y a la formule de Harris et Benedict.
Ouais, tu en as plein.
Voilà, tu en as plein, mais c'est celle-ci est la plus connue. Et bah voilà, vous tapez calculateur de vos besoins journaliers sur Internet, vous allez tomber sur des trucs plutôt précis. Alors, comme Denis l'a dit, ça va englober plusieurs choses, votre métabolisme, et puis après d'autres critères que j'ai dit tout à l'heure par rapport au coefficient d'activité, volontaire, involontaire, ça Denis après va la décliner. Mais en fait, à partir de ça, là, vous allez pouvoir du coup établir votre besoin journalier et après définir si vous voulez dans un sens ou dans l'autre. Si votre objectif, c'est la perte de gras, poids, ben vous allez du coup être en dessous de ce seuil-là ou au-dessus. Et ça, en fait, ça va être encore une fois à vous de le faire moduler si vous voulez avoir une grosse perte de poids ou une grosse prise de poids. Ça, voilà, après, vous pouvez augmenter avec vos calories.
Ouais. Alors, il y a juste quelque chose aussi pour éviter les confusions. C'est vrai que c'est important, je pense, d'éclaircir le vocabulaire. Tout à l'heure, j'ai dit dépense énergétique totale. Ta dépense énergétique totale revient en fait à ta maintenance calorique. Parce qu'en fait, ta maintenance calorique, ça va être la somme de toutes tes dépenses énergétiques. Et du coup, en fait, bah, si tu dépenses plus que ça ou si tu apportes moins que ça, en fait, c'est juste une histoire de balance. D'un côté, tu as les apports. De l'autre, tu as la dépense. Et en fait, si tu apportes plus que tu ne dépenses, eh bien, tu vas être en surplus calorique. Si du coup, eh bien, tu dépenses plus que tu n'apportes, tu vas être en déficit calorique. Donc, c'est juste pour clarifier le vocabulaire.
Ouais, mais encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé le tableau là.
Si les deux du coup sont équivalents, si du coup, eh bien, ta dépense énergétique est équivalente à tes apports, eh bien, tu es en situation de maintenance calorique. C'est vraiment pour clarifier parce que c'est vrai que il y a différents niveaux de personnes qui écoutent le podcast. Et le but, c'est que tout le monde comprenne.
Mais c'est surtout que tu l'as dit, en fait, cet instant-là où tu arrives à trouver ce point d'équilibre, c'est un instant. C'est-à-dire que c'est une photo à un moment précis de ta vie. Et ça ne veut pas dire que ça va être ça durant toute ta vie.
Bah, surtout, en fait, on va prendre on va éclaircir un mythe. Ta dépense énergétique totale, c'est impossible qu'elle soit identique chaque jour.
Ouais,
voilà, je suis désolé de te le dire. Donc, si on te dit tu dois manger 2500 kilocalories, ok, c'est bien. Mais du coup, en étant à 2500 kilocalories, en fonction de comment va se passer tes journées, ça se trouve, il y a des jours où tu seras en surplus, ça se trouve, il y a des jours où tu seras en maintenance, ça se trouve, il y a des jours où tu seras en déficit.
Mais est-ce que pour autant, il faut aller tous les jours sur son calculateur préféré et calculer ses calories?
Non. C'est pour ça que, justement, on en revient au tracking des données, de l'environnement, etc. Parce qu'au final, le but, c'est d'essayer d'avoir toujours un environnement qui soit identique, similaire, de façon à ce que bah, si tu détermines un nombre de calories, si tu dis bah, par exemple, je suis à 2800 kilocalories dans cet environnement qui est globalement le même, en ayant toujours globalement le même environnement, eh bien, tu t'assures d'avoir très peu de variations. La personne qui ne traque rien, au final, bah, elle n'est pas capable de savoir si son environnement est toujours identique. Et du coup, eh bien, si elle se dit « Ok, bah, moi, je suis à 2800 kilocalories bah, », ça se trouve, il y a des jours où ça sera très bien et ça se trouve, il y a des jours où ça ne sera pas bien parce que, eh bien, justement, elle ne traque pas ses données et parce que son environnement n'est pas contrôlé.
Et puis, alors là, je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as déterminé ton total calorique pour faire ton maintien et que tu as décidé ensuite de faire un surplus ou un déficit, est-ce que pour autant, il faut toujours se focaliser sur le nombre de calories à atteindre? Pas forcément. Pourquoi? Parce que si, comme Denis l'a dit, tu as un environnement qui est stable et où du coup tu vas avoir la même dépense, que tu vas manger les mêmes aliments et que tu vas quantifier les mêmes aliments, eh bien en fait, tu n'auras plus besoin de te référer forcément aux calories à 100%. Tu pourras te dire, ok, là sur mes repas types que j'ai en semaine, si j'ai l'habitude de manger 100 grammes de riz, n'importe quoi, tous les jours, eh bien, tu n'auras plus besoin de te dire « Ok, ça représente tant de calories. » Tu auras juste besoin de te dire « Si je veux perdre ou prendre du poids, j'aurai juste besoin de faire varier mes quantités. » Tu vois ce que je veux dire? Dans ce côté où tu as besoin d'avoir l'idée globale de tes calories, de ce que ça représente. Après, pour autant, être toujours à la recherche, au tracking exact de tes calories, Pas forcément.
Ouais, ça dépend. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des profils.
Ça dépend de l'individu, bien entendu.
Si tu veux toujours maximiser et avoir le meilleur résultat possible, track tout. Si effectivement, tu as besoin d'un peu plus de flexibilité pour maximiser ton adhérence, à ce moment-là, oui. Mais quand même, dans une grande majorité des cas, je te conseillerais toujours de traquer tout ce que tu peux traquer.
C'est ça. Au travers des suivis qu'on accompagne, tu as des personnes qui vont être en mesure de traquer leurs calories, d'autres non, d'autres qui vont vouloir s'en détacher au fur et à mesure parce que voilà, prendre la petite balance de clean tous les jours, c'est quelque chose qui les fait chier. Et d'autres, au contraire, qui ont besoin d'avoir ce côté très minutieux, d'avoir la diète toute bien tracée avec la représentation des calories et des macronutriments. Voilà, on va dire que chaque profil a besoin d'une situation, d'une méthode. On en parlait dans le dernier podcast. Et en l'occurrence, soit tu as besoin de traquer toutes tes calories pour ne laisser aucune chance au hasard ou au contraire avoir de la souplesse et de la flexibilité.
Par contre, on va recentrer un peu sur
le maintien,
ouais. Sur le truc parce que toi, au final, comment calculer sa maintenance énergétique? Tu as dit, prenez un calculateur, terminé.
Le truc le plus simple, si tu veux pas trop t'embêter.
Ouais, mais encore une fois, le but, c'est ce que en plus on a parlé la dernière fois, c'est de comprendre les outils que tu as à disposition. Les calculateurs sont bien, hein, ça peut marcher, ça peut donner une base qui par la suite va évoluer, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais forcément recommander. Et via ce podcast aussi, c'est pour ça que je voulais expliquer les différents termes de la dépense énergétique que j'ai cité tout à l'heure. Parce que, en fait, ça, encore une fois, ça te permet de comprendre les outils de la boîte à outils. Et aujourd'hui, le but, c'est d'expliquer le fonctionnement du tournevis, de la clé à molette, du poste à souder et puis…
Du niveau laser. Non, mais tu as entièrement raison. C'est vrai que si on dit juste, tu prends un calculateur, ça n'apporte rien.
Ouais, je suis bien d'accord. Fin du podcast.
Fin du podcast, voilà.
Abonnez-vous. Non, mais voilà. Donc, mon frère, expliquons. Déjà, le métabolisme de base. Et là, on va en avoir des choses à dire et ça peut partir un peu dans tous les sens. Ouais. Tu veux commencer?
Non, je t'en prie, vas-y.
Très bien. Bien lancé. Alors, le métabolisme de base, c'est sans doute la composante de la dépense énergétique qui a le plus tendance à être surestimée.
C'est clair. C'est-à-dire qu'on accuse à tort et à travers son métabolisme de base en disant « Oui, moi, je prends du poids parce que j'ai un métabolisme de base comme ça. » Ou « Moi, je perds du poids parce que j'ai un métabolisme de base qui pulse sa mère. » quoi.
C'est ça. Alors, effectivement, il existe des variations dans ce fameux métabolisme de base. Mais ces variations ne sont pas si énormes que ça. Et au final, ce qui va faire les différences entre les individus, ça va plus se jouer sur les composantes de la dépense énergétique.
Oui. Et c'est le gros morceau.
C'est ça. Et en fait, pour bien que tu comprennes, si tu vois quelqu'un qui te dit « Putain, j'arrive pas à perdre de poids », juste tu lui demandes son téléphone, tu lui demandes son compteur de step et tu regardes sa moyenne annuelle. Et là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi il n'arrive pas à perdre de poids. Par contre, pour quelqu'un qui n'arrive pas à en prendre, déjà, tu lui demandes s'il traque ses calories. C'est très, très important.
Et tu lui demandes aussi de montrer son téléphone pour voir ses steps.
Voilà, tu lui demandes aussi de checker ses steps. Mais souvent, en général, chez ces personnes-là, c'est un peu plus différent parce que la différence va se faire plutôt dans la dépense énergétique involontaire. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est souvent des personnes qui vont avoir tendance à être stressées, en fait, à faire des micro-mouvements.
Avec le pied surtout.
Je ne sais pas si tu vois, je tape sur la table. Des mouvements très nerveux, c'est des personnes qui vont avoir tendance à être assez vives.
Stressées.
Et effectivement, du coup, c'est plus comme ça qu'elles vont dépenser leur énergie.
Franchement, c'est pas à sous-estimer, mine de rien, parce que tu peux vite avoir une bonne dépense en étant très nerveux, très stressé. Hein. Ça peut aller très, très vite.
C'est le teaser, là. C'est pour garder en accroche le temps qu'on explique le métabolisme.
Là, je donne encore un petit peu plus envie d'écouter.
Mais il ne faut pas en donner trop, tu vois.
Pardon, je ne suis pas un professionnel.
Oh, bon. Le métabolisme de base. Le métabolisme de base, du coup, globalement, en fait, c'est l'énergie dont va avoir besoin ton corps au repos pour faire fonctionner tous tes organes. En gros, c'est l'énergie que va dépenser ton cœur, par exemple, pour faire tout simplement pulser le sang. C'est l'énergie que tu vas dépenser pour respirer et pour que tes organes fonctionnent, ton système digestif de manière générale, etc. C'est aussi l'énergie que tu vas avoir besoin pour assurer tout ce qui va être libido, fonction de reproduction, etc. J'ai dit qu'il fallait parler de cul, augmente les vues. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, en fonction de ton nombre de calories, ton métabolisme de base peut plus ou moins s'adapter et donc varier. Et c'est pour ça que parfois, certaines fonctions vitales peuvent être mises, certaines fonctions de ton corps dites non essentielles, comme la fonction de reproduction peut être du coup un peu mise de côté, notamment lorsque tes calories sont assez basses, à cause de ça, tout simplement parce que ton corps, lorsque le nombre de calories est bas, il préfère garder les calories tout simplement pour faire marcher tes organes vitaux et moins du coup les fonctions de reproduction. C'est pour ça que, disons-le, quand tu es parfois bas en calories pendant longtemps, tu as moins envie de ken.
Voilà, c'est ça. C'est un peu le mode survie, tu sais. Ton corps, c'est le mode survie, quoi. Il alimente ce qui est pour toi, pour ton corps le plus important.
Oui, c'est ça.
Donc, ton palpiton, ton petit cerveau.
C'est ça. Et du coup, ton corps va utiliser un certain nombre d'énergie au repos par ton métabolisme de base. Ça va prendre également en compte ta masse maigre. Ta masse maigre va utiliser beaucoup plus de calories que ta masse grasse. C'est pour ça aussi en général que les personnes très musclées ont tendance à avoir un besoin en calories plus important que les personnes qui vont être moins musclées. Tout simplement parce que le muscle va utiliser des calories beaucoup plus que la graisse par exemple, et beaucoup plus que si tu n'as pas de muscle non plus. Donc voilà en gros de quoi va se constituer le métabolisme de base.
Et voilà pourquoi Ronnie Coleman mangeait autant de calories.
Oui, les bodybuilders, après bon c'est différent.
Oui, c'est qu'il y a d'autres choses aussi. Hein.
T'as d'autres choses.
Mais voilà, plus t'es musclé, plus aussi il va falloir alimenter l'animal.
C'est ça. Et au final, est-ce que tu peux faire varier ton métabolisme de base ? Oui, au final. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ton métabolisme de base va plus ou moins s'adapter en fonction de la situation, mais tu n'auras jamais une grosse diminution, une grosse augmentation de ton métabolisme de base, dans le sens où les gens, encore une fois, ont tendance à toujours à le surestimer, sous-estimer, d'autant plus que certaines personnes vont avoir des métabolismes de base qui vont s'adapter beaucoup plus que d'autres. Ça, c'est très intéressant. J'ai lu des papiers justement là-dessus il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'espère que ça sera bientôt sur le lab, et ça devra bientôt être sur le lab au passage, qui est la bibliothèque que j'ai créée pour du coup référencer toutes les études scientifiques en français.
En français, c'est hyper important de le dire parce que tu peux ne pas être très bon en anglais, mais justement, tu as des plateformes comme le lab qui te permettent d'aller chercher les infos en français de manière accessible. Et franchement, les papiers qu'on a sur le lab, ils sont relativement faciles à lire. Tu peux en lire plusieurs d'affilée pour avoir vraiment une bonne connaissance de plusieurs sujets. Il ne faut pas te dire que quand tu vas sur le lab, tu vas y passer une heure pour lire un article. Non, franchement, un article, ça peut se lire entre 3 et 10 minutes si tu as besoin vraiment de la
pratique. Ouais, ça dépend de ton degré de compréhension. Mmh. Ça dépend vraiment de ton degré de compréhension.
C'est pour ça que j'ai mis une fourchette comme ça, mais vraiment, c'est une mine d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller checker nos travaux parce qu'on se donne du mal pour alimenter ça chaque semaine.
Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que tu peux faire varier effectivement ton métabolisme de base. Chez certaines personnes, il va varier plus ou moins par rapport à d'autres. Mais ne t'attends pas à avoir du coup des variations énormes qui viennent de ce côté-là de ta dépense énergétique. Et comme je l'ai dit, les facteurs les plus importants, ce sera plus à côté du coup sur tout ce qui concerne la
coefficient d'activité.
Ouais, la dépense énergétique. Mon frère, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur
Non, le métabolisme de base, on l'a dit, je crois que c'est vraiment une minorité. Si on représentait ça par un camembert, c'est un huitième.
En fait, ça dépend. Tu ne peux pas mettre de chiffres là-dessus parce que tu vas prendre, un exemple. Quelqu'un qui fait zéro sport, qui a au final le métabolisme de base, ça peut par exemple représenter jusqu'à 80% de sa dépense énergétique totale.
Ah oui, je vois ce que
tu vois. Alors que tu prends…
Bien sûr, si les autres curseurs sont très bas,
c'est ça,
métabolisme de base forcément représentera l'entièreté de de sa dépense.
Mais souvent, en fait, tu vois des personnes, je vois même, il y a des créateurs de contenu qui disent, c'est beaucoup utilisé pour tous les trucs de relance métabolique.
Un jargon mal utilisé.
Tu n'arrives pas à perdre de poids parce que ton métabolisme de base s'est crashé. Oh mon Dieu, c'est crashé ton métabolisme. C'est pour ça que tu n'arrives pas. Du coup, il faut le relancer.
Ouais, relancer le métabolisme.
et tu sais, c'est comme si c'était une voiture. Tu sais,
Aller chercher le kit de démarrage, faut aller chercher les.
C'est ça, tu sais, c'est vraiment le langage de l'automobile. C'est métabolisme lent, métabolisme rapide, le crash, la relance, le redémarrage.
Le booster avec justement la batterie là.
Et souvent, voilà, c'est des termes, on va dire, très, très commerciaux, encore une fois, qui sont utilisés où tu peux facilement te reconnaître là-dedans.
Donc, à la réponse, est-ce que tu peux crasher ton métabolisme? Non.
Non, tu peux pas. En fait, ce qu'on va appeler les adaptations métaboliques, donc le pourcentage jusqu'au… Enfin, le degré jusqu'auquel ton métabolisme peut s'adapter est limité. Et tu n'auras pas une adaptation qui sera énorme. Et donc, je pense que tout le monde est au courant, mais tout le monde est au courant, peut-être pas. Il y a des études, notamment la fameuse étude du Minnesota qui a été faite. Tu connais, mon frère, l'étude du Minnesota?
Non, ça ne me dit rien du tout.
C'est en fait une étude selon laquelle… Elle a été faite il y a longtemps, hein, aujourd'hui ça ne passerait plus. Mais c'est une étude dans laquelle tout simplement on a affamé des gens. Et en fait, bah, il s'est avéré que oui, si tu es à 500 kilocalories chaque jour, eh bien tu perds du poids. Et c'est une certitude, tu vois. Il n'y a aucun des participants de l'étude qui n'a pas perdu de poids. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui vont te dire « Ouais, moi je suis à 300 kilocalories par jour. Et je perds pas de poids, c'est parce que mon métabolisme a crashé. » Non, c'est parce que en fait, t'es pas à 300 kilocalories, mec. C'est juste que bah, pour toi, un Big Mac, Big Mac, c'est 50 kilocalories. Mais voilà.
En fait, ce qui fera vraiment faire évoluer votre, enfin, ce qui fait évoluer, pardon, votre métabolisme de base, c'est uniquement l'évolution de votre masse maigre et en gros de votre croissance, bien sûr, dans l'âge, en fait. C'est-à-dire qu'une personne très jeune n'aura pas le même métabolisme qu'une personne qui a c'est uniquement ça.
Ça, donc aussi, on va dire c'est lié à la masse musculaire.
Mais, oui, mais parce que forcément tu grandis, mais c'est parce que aussi tu as tes organes qui se développent. Je veux dire, un jeune n'a pas le même cœur qu'un vieux comme toi. Enfin, tu vois.
Je suis vieux, moi. Ok. Non, mais voilà, tout ça pour dire que les deux seules façons de faire varier ton métabolisme de base, c'est effectivement en gagnant ou en perdant de la masse maigre et du coup potentiellement avec les adaptations métaboliques. Faut pas qu'on se disperse trop, parce que c'est vrai que ça, on pourrait faire un podcast uniquement sur le métabolisme de base, hein. Mais on va essayer de rester succinct et on va essayer de faire toutes les zones composantes. Bon, la dépense énergétique volontaire maintenant, c'est très important, mon frère. On va parler de la dépense énergétique volontaire. J'ai commencé tout à l'heure ou t'as commencé?
Non, bah, je sais plus. Vas-y. Côté volontaire, c'est-à-dire que ça part d'une démarche où tu t'inscris volontairement dans une activité, quelle qu'elle soit.
Mmh. C'est ça. Donc, si tu vas à la salle t'entraîner, ça fait partie de cette catégorie-là. Si tu vas marcher dehors, ça fait partie de cette catégorie-là. En fait, toute l'énergie que tu vas dépenser volontairement, tout simplement, à partir du moment où tu te dis, quand tu vas faire du cardio, par exemple, ça va être dans cette catégorie-là.
Et peu importe le cardio. C'est pour faire allusion au sexe, Denis. Parce qu'on a dit qu'on tenait les gens avec le cul aujourd'hui.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc peu importe le cardio.
Mais c'est pas comme ça qu'on brûle le plus de calories, désolé.
on va y venir après avec le côté muscu.
Non, mais je veux dire, parce qu'on vous voit les mecs qui sont là. on les connaît, les messages du style putain, moi j'ai baisé pendant 4 heures, j'ai dû brûler au moins 3000 calories. Ça, c'est honnêtement.
Ça t'a juste aspiré ton âme, mais c'est tout.
C'est le message qu'on a déjà reçu plein de fois. Désolé, ça se passe pas totalement comme ça.
Et à l'inverse, le NoFap ne va pas non plus te permettre de manger plus de calories.
Non, c'est pour la testo, le NoFap.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, on pourrait dire oui, on se dépense moins, donc.
Ah, parce que tu comptes ça comme une dépense.
Eh bien, pourquoi pas, ça relie aussi, encore une fois.
Bref, c'est vrai, c'est le genre de message.
N'importe quoi sur mon podcast.
C'est parti en couille. Mais revenons sur la dépense énergétique volontaire. Donc, effectivement, cette dépense énergétique volontaire, tu vas vraiment pouvoir la faire varier en fait du tout au rien. Hein. On prend par exemple une personne qui va aller courir pendant 3 heures, bah, c'est vrai que la dépense énergétique va être relativement importante comparée à la personne qui ne va rien faire du tout. Mmh. Donc c'est sûr que si on reprend l'exemple de tout à l'heure, en termes de pourcentage, Tu vois, si tu cours pendant 3 heures, bah, c'est sûr que bah, ce jour-là, ton métabolisme de base, il va représenter une part de ta dépense énergétique totale qui sera beaucoup moins importante.
Exactement. Tout à l'heure, je parlais du camembert. Là, effectivement, on comprend mieux l'idée que ce n'est pas un camembert, mais plutôt des curseurs qui vont être modulés en fonction de ta journée, de ce que tu vas faire dans ta journée. C'est sûr que si tu cours le matin, après, tu fais tes courses, après… l'après-midi, tu vas à la salle de sport, après tu fais ta vaisselle, après tu fais…
Non, tu mélanges avec la dépense involontaire.
Bah, involontaire, pour moi, on y viendra après, hein. Pour moi, la dépense involontaire, c'est toutes les petites choses du quotidien que tu vas faire sans t'en rendre compte, tu vois. Pour moi, la dépense volontaire, c'est, je ne sais pas, je fais ma vaisselle, effectivement, ça part d'une dépense volontaire qui est difficile à quantifier, on est d'accord. Mais par contre, que tu fais, même la personne qui est sur son canapé, qui… change la manette là, pour changer de chaîne, bah, c'est une dépense volontaire pour moi. Dépense involontaire, c'est vraiment tous les tics nerveux que tu ne peux pas t'empêcher de faire.
Bon, on ne va pas avoir la même définition.
Bah, tu vois, ça va être relativement intéressant, mais en même temps, c'est là aussi où ça montre la complexité des choses et peut-être qu'on arrivera à en tirer une conclusion où il ne faut pas forcément se prendre la tête avec chaque dépense.
Mmh. Pour en revenir du coup donc, sur la dépense énergétique volontaire, encore une fois, beaucoup de personnes vont avoir tendance à la surestimer. L'exemple le plus flagrant, c'est les séances de muscu. Une séance de muscu, je suis désolé de te le dire, vraiment, je suis désolé, ça ne brûle pas tant de calories que ça. C'est comme ça.
C'est-à-dire que le temps où tu es vraiment actif à la salle de sport, c'est… si tu faisais la somme de tous tes sets de travail, ça représenterait quoi, un tiers du temps que tu as passé à la salle.
Ah, c'est même pas ça, mais déjà, il y a le… tu sais, il y a des mecs qui vont venir et qui vont dire « Oui, mais ma montre, elle m'a dit que j'ai brûlé. Oui. J'ai brûlé 500 kilocalories. » Non, ta montre, elle est fausse. Désolé de te le dire. Encore une fois, il y a des articles sur le lab pour ça.
Oui. On avait parlé de la montre connectée, la charge HR, bref.
Et du coup… comme le disait Rémi, la plupart du temps que tu vas passer à la salle, ce n'est pas du temps où tu vas dépenser beaucoup de calories. Pourquoi ? Parce que si tu veux avoir une dépense énergétique importante, il va falloir fournir un effort intense.
Et surtout continu.
Et surtout continu. C'est pour ça qu'on sépare, on va dire, la dépense énergétique du coup, liée à l'activité physique dans deux catégories, ce qu'on va appeler l'entraînement de résistance et l'entraînement d'endurance. Donc effectivement, l'entraînement, tout ce qui va être en endurance, ça va être un effort qui en général va être continu. Et l'entraînement en résistance va être du coup des efforts intenses mais assez courts. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, au final, ça va représenter qu'une toute petite partie de ton entraînement, ces efforts intenses, parce que si tu fais, on va dire, 4 séries par mouvement sur 5 exercices, déjà, est-ce que tes 4 séries sont réellement intenses? Ça, c'est vrai, parce que bon, si t'as 5 RIR par mouvement, est-ce qu'on peut qualifier ça de vraiment intense?
C'est un peu comme tes entraînements en ce moment.
Mes entraînements sont très bien. Tu progresses, toi?
Je suis pas sûr. Ouais, moi, je progresse. Ouais. Bon, allez, avance, parce que…
Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, oui, donc ça représente au final qu'une minorité de ton entraînement. La plupart de ton temps, au final, à la salle, tu vas le passer soit en temps de repos, soit du coup, au final, à charger, décharger tes machines. Et ça va te dépenser que très, 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 très peu d'énergie. Donc, ne compte pas sur la musculation comme source principale de dépenses énergétiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, surtout chez les skinny fat, on leur dit, si tu es skinny fat, c'est sans doute que malheureusement, ton activité physique, c'est pas trop ça. Ouais, mais je m'entraîne 5 fois par semaine.
Ouais,
tu regardes déjà la gueule de l'entraînement, tu vois que le mec, il force pas trop. Et en plus, comme je l'ai dit, il passe… En fait, c'est juste ça, sa dépense énergétique. Genre, il va faire 20 séries, 20 séries pas réellement intenses. Il va rentrer chez lui, il va faire 1000 steps en moyenne mensuelle et après, il va jouer à Fortnite. Et c'est pour lui, voilà, il a une grande activité physique.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est mieux que rien, mais si vous espérez perdre du poids avec la musculation et que votre objectif, c'est de perdre du poids, c'est pas exactement comme ça que vous devez vous prendre. C'est mieux que rien parce que vous avez construit du muscle, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids principalement. Et oui, c'est là aussi où c'est hyper important de dissocier, comme l'a dit Denis, entraînement résistance, entraînement d'endurance, où vous allez avoir une dépense continue. Et c'est là, teasing, où vous allez perdre le plus de poids.
En fait, il faut. Tu as dit, si tu perds du poids, ne fais pas de, enfin, ne compte pas sur la musculation. En fait, c'est
ne compte pas principalement sur la musculation.
C'est plutôt si tu cherches à augmenter cette composante-là de la dépense énergétique, ne compte pas réellement sur la musculation. Voilà.
Ne compte pas que.
Et c'est pour ça que, du coup, il y a, dans cette dépense énergétique volontaire, il y a d'autres efforts, donc ce qu'on va appeler bah, du coup, l'entraînement en endurance, qui va être beaucoup plus intéressant. Et on va noter, on en a déjà parlé dans plusieurs podcasts, le plus intéressant qui est donc la marche, parce que en fait, c'est là où tu vas avoir le meilleur équilibre entre énergie dépensée et fatigue accumulée. Mmh. Parce que bien sûr, tu peux courir, mais courir tous les jours, d'un point de vue de la récupération, ça va être au bout d'un moment assez compliqué, surtout si ton but, c'est de progresser en musculation. Encore une fois, si tu fais que de la course, ça peut être OK. Mais comme on l'a dit, on se base sur un public qui fait de la musculation, qui veut performer. Courir tous les jours, plus du coup faire tes séances, au bout d'un moment, au niveau des contraintes articulaires, ça va être assez important, ouais. Surtout si tu commences à être assez lourd. Donc, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Tu peux aussi faire du rameur. Tu peux faire de l'escalier qui sont d'autres alternatives.
Du vélo.
Du vélo, mais encore une fois…
De l'elliptique.
Non, pas de l'elliptique. C'est fini l'elliptique. Ah bon ? Non, c'est de la merde l'elliptique. On l'a déjà dit plusieurs fois.
Je le sais.
Et du coup, encore une fois, ça va être des efforts que tu vas avoir du mal à tenir sur la durée. Je veux dire, si tu prends du rameur, bah, fais 45 minutes de rameur, tu verras que tu seras beaucoup plus fatigué après 45 minutes de rameur qu'au bout de 2 heures et demie de marche. Et tu verras que bah, en termes de calories, ça sera, on va dire, beaucoup plus facile de faire la marche et enfin de je sais plus ce que j'ai dit, je crois que je me suis complètement embrouillé là.
Non, c'est bon, c'est bon.
En termes du coup de fatigue accumulée, tu verras que ce sera beaucoup plus simple du coup de tenir la marche. Et surtout, bah, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire tous les jours, marcher, sans que ça te pose de problème. Parce qu'avec le rameur, tu vas avoir les contraintes aussi bah, de la fatigue que ça va accumuler sur tes cuisses, la fatigue que ça va accumuler sur ton dos. Et du coup, ça va te bloquer aussi au niveau de la récupération sur ces zones-là.
C'est ça, c'est avant tout en fait le choix de l'outil. Ça va vraiment être décisif par rapport à l'adhérence que vous allez pouvoir y mettre. Vous pouvez faire la marche, vous pouvez faire du rameur, vous pouvez faire un peu les deux. L'idée, c'est aussi de vous diriger vers l'instrument qui vous plaira le plus. Alors, on l'a dit ironiquement, vous pouvez faire l'elliptique. C'est pas vraiment le meilleur truc, on l'a déjà dit dans le podcast, parce que vous avez l'inertie du mouvement qui ne va pas créer forcément une grosse dépense. Mais pour le coup, si vous avez envie d'alterner entre elliptique, entre rameur, entre tapis, entre marche en extérieur, entre vélo, vous pouvez. Après, ça va toujours être la façon dont vous allez le quantifier et après d'avoir des équivalences à peu près OK pour avoir une idée, une enveloppe globale de votre dépense. Mais encore une fois, le choix sur lequel vous devez vous diriger, c'est l'adhésion. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Parce qu'on peut comprendre aussi hein, qu'aller marcher 2h, 2h30, alors même si c'est fait de manière un peu indirecte, dans le sens où vous marchez pour aller au boulot, etc., vous le faites naturellement. Mais si par contre, vous devez aller marcher en extérieur et qu'il y a un temps de merde ou que vous n'avez pas envie de marcher pendant 2 heures parce que vous avez plein de choses à faire, bah vous tournez vers une alternative comme voilà, la course à pied qui représentera du coup une fenêtre plus courte ou du rameur parce que ça sera également plus court en termes de laps de temps. Bah vous pouvez. C'est vraiment hyper important de ne pas être bridé uniquement par un seul instrument. C'est vrai que les Step Life, on en fait depuis très longtemps. On a nos amis Monsieur GBZ et Monsieur Guif qui prônent aussi la dépense depuis un moment aussi. Et donc voilà, nous on s'inscrit aussi dans cette démarche, mais par contre on ne se bride pas sur un outil. Il y en a plusieurs. Là en ce moment, avec les travaux au niveau du gym, avec tout ce qu'on fait aussi à côté, l'amplitude horaire comme on l'a dit aussi, quand une journée commence, on veut qu'elle soit le plus rentable possible. Eh ben, on gambade, hein. On marche. Donc mine de rien. Marcher comme on le fait aussi, ça représente aussi une certaine dépense. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte en fonction de votre rythme, de ce que vous faites dans vos journées, de comment elles sont à compléter, à remplir. Mais oui, c'est l'adhérence number one.
Rémi a bien résumé les choses. Si tu veux maximiser du coup ta dépense énergétique, bah, l'adhérence sera toujours le facteur numéro un. Mais après, c'est assez intéressant ce que tu as dit, et ça fait une belle transition vers la dépense énergétique involontaire. Mmh. C'est qu'au final, si tu peux dépenser ton énergie de manière involontaire, c'est quand même l'idéal. Et c'est là où, du coup, ma définition va se différencier de celle de Rémi.
Ouais, parce que c'est quand même étroitement lié, mais oui.
Parce que du coup, en fait, toute la dépense énergétique involontaire, c'est l'énergie que tu vas dépenser sans, entre guillemets, j'ai envie de dire, sans le vouloir. Exemple, tu vas à la salle, tu vas, du coup, c'est toi qui fais la démarche d'aller à la salle. Si tu vas courir, c'est toi qui volontairement, du coup, va courir. Rémi parlait tout à l'heure de la vaisselle. Forcément, quand tu vas faire ta vaisselle, bah, les mouvements que tu vas faire, tu vas dépenser de l'énergie. Chaque mouvement que tu fais dépense de l'énergie. Ça, c'est une dépense énergétique involontaire.
Volontaire, parce que sinon, tu peux te prendre une grosse claque dans ta gueule par ta daronne si tu n'as pas vidé de la vaisselle.
Oui, c'est vrai.
Mais
du coup, quand tu vas avoir la possibilité de dépenser de l'énergie de manière involontaire, par exemple, là, ça fait un petit moment que je n'ai pas été sur la ferme, mais quand, par exemple, je suis sur la ferme, eh bien, quand il faut courir derrière les veaux, quand il faut attraper les vaches, etc.
Quand tu te fais courser par une vache.
Quand tu te fais courser par les vaches, ça m'est arrivé plein de fois. Quand tu te fais charger, bref, quand tu cours pour ta vie.
Je me rappelle de Sken. Je ne sais pas pourquoi je dis ça.
Pourquoi tu... Bon, bah, faut expliquer maintenant.
Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Bon. En fait, pour expliquer la situation, quand on était plus jeune...
Laisse-moi raconter l'histoire de ma jeune génisse. En fait, quand on était plus jeune avec Rémi, bien sûr, on a grandi sur une ferme. Donc, on avait nos vaches
préférées. Ouais.
Préférées, voilà. Et donc, elles avaient toutes leurs petits noms. Et moi, j'en avais une. Son numéro, c'était la 0973.
Et moi, j'avais la 0964.
Ouais, qui s'appelait Buds. Et moi, elle s'appelait Sken. Ne demandez pas les noms, on était des gamins. Et en fait, vous savez, quand j'étais gosse, j'avais cette pensée magique de « j'étais Marcelino Padevino », tu vois, genre…
Marcelino Padevino, je ne sais pas si vous l'avez. Je mettais générique, comme ça, après, vous allez dire « ah, putain, les enfoirés, ils nous ont foutu le générique dans la tête ».
En fait, c'était très simple. Je pensais que je pouvais parler aux animaux. Quoi. Et je pensais qu'elles pouvaient me comprendre. Donc, je disais, tiens, viens me voir et tout. Et elle venait me voir, mais parce qu'elle pensait que j'allais lui donner à bouffer. À chaque fois qu'elle me voyait, je lui donnais à manger et j'essayais de la caresser.
Denis disait, elle me comprend, elle comprend quand je lui parle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je le reconnais. Et c'est vrai qu'il y avait eu quelques petits coups du destin où je lui avais dit un jour, genre, va chercher Buds. Et elle était partie et elle était revenue avec Buds. Et là, quand t'es gamin, c'est le truc, c'est probabilité. C'est, tu le demandes 40 000 fois et le jour où ça arrive, tu retiens que ça, tu vois. Et tu te dis, c'est bon, je suis Marcelino Padivino. Je peux parler aux animaux. Bref, bon, j'étais un peu con, je parlais aux cailloux aussi. Mais bref.
On est en forme. Et donc, du coup, parce qu'il faut aller jusqu'à la dépense.
Il faut aller jusqu'au... Et en fait, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que Sken, qui était une jeune génisse...
Adorable, trop mignonne.
Trop mignonne. Eh bien, un jour, est devenue une vache. Donc, à partir du moment où une génisse met bas pour la première fois, eh bien, elle devient une vache. Et forcément, Denis, tout jeune, voit que du coup, sa génisse préférée a fait un veau. Il dit, oh là là, trop bien. Son veau, c'était le 2000. 2000 tourons, le numéro. Et je dis, bah voilà, je vais aller voir ma génisse, mais qui n'était plus d'une génisse. Je vais aller la caresser, je vais lui dire bien joué pour ton veau, je vais la checker, machin et tout. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que du coup, instinct maternel, tu crois qu'elle m'avait. Marcelino Padivino, c'était terminé. Terminé. Qu'est-ce qu'il dit, Suzy? Je dis, est-ce qu'elle est gentille? Ah, bah je peux te dire que j'ai couru comme jamais. C'est sur là que j'ai compris que quand une vache mettait bas, surtout une génisse qui du coup est un peu plus jeune, qui n'a pas l'habitude, qui ne sait pas ce que c'est, bah, il ne faut pas s'en approcher. Surtout que j'étais un gosse, donc tu as des manières d'approcher des animaux. J'y suis allé comme une brute. Ah bah, je peux te dire que j'ai été servi. Hein.
Ouais, et je l'ai ramassé à la petite cuillère. Sken, elle ne veut plus me parler.
Putain, oui. Elle ne me comprend plus.
Bref, c'est aussi ce jour-là où tu as compris que la dépense, ça pouvait être aussi voilà. Se faire courser par les vaches.
Dépense énergétique involontaire.
Ah oui, involontaire, là.
Mais instinct de survie. Donc voilà, bon, ça m'est arrivé plein de fois, hein, je vous rassure. Là, je me suis fait charger plein de fois, j'ai sauté des barrières. Parce que bah, voilà, c'est comme ça, c'est la vie à la ferme, c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire que la dépense énergétique involontaire, c'est quelque chose que tu dois quand même essayer de chercher à maximiser si tu veux eh bien, avoir une dépense énergétique assez haute. Exemple, tu peux te garer un peu plus loin pour aller travailler, ce genre de choses.
Tu peux prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Tu peux faire un grand tour au lieu du petit tour que tu fais d'habitude.
Tu peux aller faire les courses à pied. Tu peux faire plein de choses. Parce que plus tu pourras les faire de manière involontaire et mieux ça sera. On va prendre l'exemple du coup, par exemple, de quelqu'un qui travaille dans le BTP, un maçon. Bah, lui, il va en général avoir tendance à… il finit ses journées de travail, il a déjà ses 15 casse-steps, c'est bon, tu vois. Il n'a pas besoin d'aller marcher sur un putain de tapis.
Voilà, 15 casse-steps et puis il a fait une partie de sa séance de muscu, s'il a soulevé des parpaings toute la journée, quoi.
Mais du coup, voilà, tout ça, ça va être la dépense énergétique involontaire. Mais comme le disait Rémi, la dépense énergétique involontaire, ça va également regrouper d'autres petites choses qui sont assez insoupçonnées et qui vont parfois faire une grosse différence aussi sur la dépense énergétique totale, donc la maintenance calorique. Je le disais tout à l'heure, je l'ai teasé un peu sur les personnes qui ont tendance eh bien, du coup, à avoir une dépense énergétique assez importante et qui ont tendance à être très nerveuses parce que eh bien, ces petits mouvements peuvent être, eh bien, dépenser beaucoup d'énergie lorsque tu en fais tout au long de la journée. Tous ces tics nerveux, ces grattements, ces trucs, tout ça, ça dépense de l'énergie. En général, moi, je le vois très bien. Quand je travaille assis, c'est très simple. Quand j'ai beaucoup de calories, j'ai tendance à involontairement, j'ai mon bureau qui bouge. Et quand j'ai peu beaucoup de calories, je peux dire que le bureau, il ne bouge pas. Parce que au final, encore une fois, tout à l'heure, je parlais des adaptations métaboliques. Ton métabolisme de base s'adapte du coup en fonction de ton nombre de calories, mais cette dépense énergétique involontaire s'adapte aussi. C'est-à-dire que eh bien, quand tu vas être en restriction énergétique, tu verras que tu passeras plus de temps assis que debout. Mais ça, tu t'en rendras pas compte jusqu'au moment où tu vivras plusieurs fois l'expérience ou que quelqu'un te le fera remarquer. Inconsciemment, voilà, tu chercheras toujours à être plus assis que debout, tu chercheras inconsciemment à t'appuyer un peu plus sur des objets. Tu verras que tous ces petits mouvements que tu faisais vont disparaître. Encore une fois, ça, tu te rends compte que dans certaines situations, moi, j'ai un bureau assis debout, je flexe un peu grâce à ça, et en fait, je le mets très bas de façon à ce qu'il soit sur ma jambe. Donc, en fait, je le sens. Je le sens quand je le fais remuer et quand je ne le fais pas remuer. La plupart des bureaux ne sont pas comme ça, donc tu ne le sentiras jamais. Il y a plein de petites choses comme ça, des mouvements nerveux qu'on peut te faire remarquer aussi.
C'est surtout aussi tout ce qui est hyper-vigilance. Tu sais, quand tu es hyper focus ou que tu as l'impression d'avoir une vue bien plus décuplée. Enfin, toutes ces choses-là, vous les remarquez quand vous êtes hyper, hyper vigilant. Tous ces tics nerveux, tous ces moments où vous allez être plus réactif ou comme je le fais aussi aujourd'hui, là où je parle beaucoup avec mes mains. Alors bon, pour le petit fun fact, je maîtrise la langue des signes. Voilà, je flexe aussi un petit peu.
Ouais, moi aussi, regarde.
Et donc, forcément, parler avec les mains, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et voilà, tout ça là, bouger les mains, les pieds quand on fait des choses, c'est pour moi ça, la dépense involontaire. Alors bon, on a dit, c'est un peu une catégorie peut-être un peu floue où justement, le côté catégorie n'est peut-être pas le bon puisqu'il y a des choses qui peuvent transitionner. Oui, c'est ça, ça se dit.
Transiter
entre les deux. Donc, c'est pour ça que pour moi, les dépenses involontaires, c'est purement tout ce que tu ne peux pas contrôler et que tu fais naturellement.
Je suis en train de penser, mais en fait, toi, Rémi, tu es le Dark Sasuke ultime, tu vois.
Parce que
tes journées, tu les passes à faire des signes de Konoha, là.
Un peu, ouais.
Putain.
Ouais, mais c'est pour dire aussi que j'ai une putain de dépense aussi.
Ouais. Ça t'aide pas mal. Mais pour toi, t'es un gros lardon.
Quel enfoiré.
Mais du coup, voilà. Ça, c'était le point sur la dépense énergétique involontaire. Comment la faire varier? Tu peux pas réellement parce que c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Comme je l'ai dit, tu vas plus ou moins avoir des facilités à la faire augmenter ou diminuer en fonction de ton nombre de calories. Et c'est quand même quelque chose que tu peux faire varier. On va dire en fonction de si tu décides de mettre en place plusieurs petites choses, par exemple quand tu es au bureau, comme disait Rémi, escalier plutôt que l'ascenseur, etc., tu verras que involontairement, si tu prends cette habitude de ne plus prendre l'ascenseur, eh bien, tu verras que cette partie-là de la dépense énergétique va augmenter.
Bien sûr, ouais. Mais alors, on l'a dit, ce qui te permettra vraiment d'augmenter ta dépense, ça va être de mettre en place des stratégies faciles pour aller faire plus de pas ou faire plus de tâches ménagères. Votre femme ou votre maman sera contente. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment impacter. Après, n'allez pas essayer de dandiner les pieds, etc. si vous ne le faites pas naturellement. Ça, c'est des choses qui découlent, on va dire, d'un caractère aussi. Enfin, je veux dire, quand on a cette façon de faire, c'est aussi lié un petit peu à notre façon d'être.
Ouais, c'est ça. Il y a des gens, ils entendent de la musique, ils se mettent à danser.
Ouais.
Moi, je ne vois pas un mec qui danse. Je vois un gars qui utilise des calories, tu vois. C'est comme ça.
Mais voilà, donc tout ce que vous pouvez faire de manière volontaire, c'est des choses qui pourront vraiment peser et beaucoup dans votre balance énergétique.
La dernière composante, mon frère, tu peux la faire ?
Bah, c'est l'effet thermogénique des aliments.
L'effet thermique des aliments.
Thermique, thermogénique, oui. Thermique. Eh bien, en fait, en fonction des aliments que vous allez consommer, certains vont demander plus d'efforts à votre corps pour être assimilés. Alors, voilà, en gros, la définition.
Une définition plus simple de l'effet thermique des aliments, c'est tout simplement l'énergie que tu vas utiliser pour assimiler des nutriments. Et okay. C'est un peu plus simple, je pense, dit comme ça.
Tu sais bien synthétiser. Mmh. On voit que tu fais des réels tous les jours.
Et Sasuke, calme-toi. Retourne à Konoha. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, comme le disait Rémi, par contre, en fonction des nutriments, eh bien, ce qui va se passer, c'est que certains vont dépenser plus d'énergie lors de leur assimilation. Alors, sans rentrer dans les détails, ça vient tout simplement de leur structure biochimique. C'est passionnant, mais ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir expliquer dans un podcast.
Ben ça, tu vois, là, on a un beau tableau. Ça serait super d'utiliser, du coup, les branches, etc.
Ça demanderait plus qu'un tableau et ça serait,
il faudrait ouais, un grand panneau.
Ça demande un niveau aussi assez poussé pour la compréhension de tout ça.
Comment il se la pète ? Bon, allez, vas-y.
Et du coup, en gros, pour faire simple, encore une fois, les chiffres varient. Les chiffres, d'ailleurs, que je vais donner, sont, ça se trouve, plus d'actualité. Mais globalement, part du principe que 30% des calories que tu vas ingérer lorsque tu vas prendre des protéines vont être utilisées pour les assimiler. Globalement, 10 à 12% des glucides, donc des calories qui proviennent des glucides, vont être utilisées pour les assimiler et 0% des lipides vont être utilisés. Encore une fois, ces chiffres ont vachement varié. Il y a un moment, c'était 10 à 12% pour les protéines. Après, c'était 5% pour les glucides. Il y a un moment où, du coup, c'était vachement plus haut. Là, je t'ai donné vraiment les chiffres les plus hauts que j'ai lus, du coup, dans la littérature scientifique. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça varie beaucoup. Le lab va mettre la lumière là-dessus. Le lab va éclairer cette situation. Mais encore une fois, c'est vrai que la littérature scientifique évolue vachement et c'est vrai que c'est assez dur à suivre. Mais globalement, voilà, c'est pour te donner une idée, part du principe que les protéines demanderont toujours plus d'énergie pour être assimilées, les glucides également et du coup, les lipides, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bah, potentiellement, encore une fois, si on reprend le camembert que Rémi parlait, bah, plus tu vas consommer de calories et plus ce qui va se passer, c'est que cet effet thermique des aliments va être important, tu vois. Et à l'inverse, moins tu vas avoir de calories, moins cet effet thermique des aliments va représenter une part importante de ta dépense énergétique.
Ce qui ne veut pas dire non plus que plus tu vas manger, plus tu vas perdre de poids.
Oui, rappelons toujours que c'est qu'un pourcentage. Hein. Mmh. Donc, les aliments à calories négatives n'existent pas.
Bien sûr.
Je tiens à le dire. Non, parce qu'il y en a, ils pensaient qu'il y avait certains aliments, tu les bouffais. Et en fait, ça absorbait tes calories, tu n'avais pas de calories. C'était même, ça utilisait les calories, bref. L'effet thermique des aliments, c'est, on va dire, la petite cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que parfois, en gros, ça peut quand même faire une différence sur quelqu'un qui a tendance à avoir une alimentation très déstructurée et très mal organisée. Souvent, les personnes qui ont tendance à avoir une alimentation de merde à base de gâteaux, plats préparés, junk food.
Ouais, surtout de plats très gras, en fait.
Voilà, avec qui se retrouve avec des répartitions de macronutriments assez déséquilibrées, donc peu de protéines, Et au final, beaucoup de lipides et du coup, le reste en glucides. Bah, forcément, quand tu rééquilibres le tout, que tu diminues les lipides, que tu augmentes les protéines, bah, ça peut effectivement avoir un effet important de ce côté-là.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup des protéines, hein, et de leur effet thermique. Donc, c'est pour ça que oui, dans les régimes, c'est un peu là d'où est partie un peu la croyance populaire de dire oui, voilà, les régimes hyper protéinés vous feront perdre du poids parce qu'on va pouvoir jouer sur cet effet-là.
Oui, il me semble que, mais on a déjà parlé dans un podcast de cet effet thermique des aliments. Et je crois qu'on avait parlé des, je ne sais pas si les orties, mais c'était peut-être un qui avait bugué, je ne sais plus. Mais effectivement, il y a plusieurs intérêts à avoir un taux de protéines suffisamment haut. Alors quand je dis suffisamment haut, montez pas à 4 grammes par kilo de poids de corps, ça ne sert à rien. Mais voilà,
c'est ça aussi, on l'a vu sur le lab.
La fourchette, voilà, des personnes allant de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps est bonne. Le mieux en général, c'est toujours se fier à la masse maigre. C'est pour ça que la fourchette, on va dire, par kilo de poids de corps est aussi large, 1,6, 2,2. Mais encore une fois, tout ça, on en reparlera ou on en a peut-être déjà parlé.
On en a déjà parlé et c'est surtout une fourchette qui est répétée et qui est réétudiée souvent. Et en fait, c'est une fourchette qui est vraiment fiable. Et on parle de, bien sûr, toutes protéines confondues. On ne parle pas que des protéines animales, on englobe absolument toutes les protéines végétales animales.
Donc là, du coup, on a parlé des quatre grandes dépenses énergétiques. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on a le métabolisme de base, la dépense énergétique volontaire, la dépense énergétique involontaire et l'effet thermique des aliments. Et du coup, en fait, c'est le cumul de ces quatre dépenses qui va te donner du coup forcément ta maintenance calorique. Encore une fois, pourquoi on s'est fait chier à t'expliquer tout ça ? Pour que tu comprennes le fonctionnement. Pour que tu comprennes qu'effectivement, bah, le jour où tu vas par exemple aller courir et que ta dépense énergétique volontaire va être importante, forcément tes besoins en calories ce jour-là, si par exemple tu veux être en surplus calorique, vont être plus importants. Tu vois ? Parce qu'au final, si on t'avait juste dit « Mec, tu prends un putain de calculateur, Oui, t'as compris que je me foutais de ta gueule. Oui. Bah, au final, t'aurais pas compris que ça peut varier. T'aurais pas compris les mécanismes derrière. Et au final, tout ce que t'aurais fait, c'est utiliser une méthode, un raccourci sans comprendre l'utilité des outils. C'est pour ça que le dernier podcast, c'était bien pour ça, parce qu'on espère t'avoir fait comprendre, enfin, que tu as compris grâce à lui l'importance de savoir ce que tu fais et de manipuler les paramètres et comment tu manipules ces paramètres.
Exactement.
Là, maintenant, voilà, tu sais que tu as quand même, si tu fais, hein, on va dire, le compte, tu peux, donc sur ce qui représente ta dépense énergétique totale, tu peux en fait à peu près tous les influencer. Ton métabolisme de base, tu peux l'influencer et le faire varier au final en augmentant ta masse maigre. Ta dépense énergétique volontaire, elle, c'est la plus simple à faire varier parce que du coup, bah, en fonction de ce que tu choisis de faire, tu vas pouvoir plus ou moins faire varier cette dépense. La dépense énergétique involontaire, même si elle est dite involontaire, tu peux quand même mettre en place certaines actions pour pouvoir l'augmenter de manière involontaire. Et le dernier point, l'effet thermique des aliments, c'est aussi quelque chose sur lequel tu as
la possibilité
de faire varier. Donc au final, toutes ces personnes qui vont te dire « Oui, mais moi, c'est ma génétique, je ne peux rien y faire. » Bah, en fait, juste mets-leur cet extrait du passage et tu vas voir qu'au final, dans leur malheur, c'est juste leur inaction qui fait qu'elles n'atteignent pas leur objectif. Parce que tous les paramètres, tout ce qui représente ta dépense énergétique totale, tout ce qui représente ta maintenance énergétique totale, eh bien, tu as un pouvoir d'action dessus.
Exactement. Non, mais voilà, c'est ça en fait. Et puis, je sais pas, si on te dit lors d'un repas, lors d'un dîner mondain par exemple, on te dit « Oui, mais moi, j'arrive pas à prendre du poids. » Et bien là, tu lui récites ta leçon, la leçon que tu as entendue dans le Zero Yard Podcast. Et tu lui dis point par point là où il se trompe. Et là, tu vas voir que tu vas avoir des petites lumières dans ses yeux.
Ça dépend. Hein. Si c'est un con, perds pas ton temps.
Hein. Voilà. Et Denis, la grosse sauce piquante.
Non, mais c'est vrai. Alors,
c'est-à-dire que sur tous les paramètres, tu peux faire évoluer les choses. Si une personne te dit « Oui, mais moi, je peux pas trop faire évoluer l'effet thermique des aliments. » Ok, pas de souci. T'as ta dépense involontaire. « Oui, mais moi, je peux pas. » Bah, ta dépense volontaire. « Oui, mais moi, je peux. » Et à la fin, tu lui fais des gros doigts.
Non, c'est pas ça. C'est Tu vois, on a parlé de maintenance énergétique, on a parlé de calories. Tu as dû comprendre que les calories, c'était vraiment important. S'il y a quelque chose que moi, j'ai appris dans la vie, c'est que je ne vais pas gâcher mes calories pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, tu vois. Non, mais c'est vrai. Part du principe que, voilà, si quelqu'un vient te voir et qu'il te demande quelque chose, mais qu'il n'est pas prêt à mettre en place certaines choses, bah mec, je ne vais pas gâcher mes calories pour lui. Hein.
C'est-à-dire que s'il vient avec une question, mais qu'il est sûr de lui et qu'il veut entendre qu'une seule réponse, mais que ce n'est pas la bonne réponse, tu perds ton temps.
On les connaît, les mecs, plein de préjugés. S'il ne vaut pas mes calories, il ne vaut pas mes calories. Hein. Donc, c'est comme ça. Fais des choix aussi avisés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à apporter ton aide aux gens. Mais certaines personnes peuvent, on va dire, donner l'impression qu'elles veulent être aidées, mais en fait, tout ce qu'elles veulent faire, c'est te prouver indirectement que tu as tort et que indirectement tu viennes renforcer leurs excuses.
Voilà, c'est ça. Et renforcer leurs excuses.
Ouais, c'est ça.
C'est pas renforcer leur façon de faire, parce que c'est sans doute des mauvaises façons de faire, mais c'est renforcer leurs excuses parce qu'elles ne veulent pas, elles refusent d'admettre qu'elles ont tort.
Non, mais c'est très simple. Quand j'étais en cabinet de diète, quand je me suis lancé, j'ai fait beaucoup de consultations gratuites. Alors, les consultations gratuites, c'est bien parce que du coup, j'ai eu un grand échantillon de personnes et ça m'a beaucoup aidé au final à savoir ce que je voulais faire et ne pas faire dans la vie.
Hein, ouais, je pense que peu importe le coach qui commence aujourd'hui à commencer avec des consultations gratos. Et c'est aussi là où tu te fais ton…
Bah, au final, effectivement, la contrainte financière, c'est quelque chose qui fait que déjà la personne, voilà, si elle fait la démarche de venir et de te payer, en général, elle va être plutôt dans une démarche où elle veut mettre en place des actions. Quand tu fais quelque chose de gratuit, c'est là où tu vois en fait la réalité des choses. Tu vois. Parce que bah, voilà, moi j'ai vu, tu te souviens de Mister Cocktail.
Oui, Mister Cocktail.
Putain, c'est voilà, y a des personnes qui viennent me voir et qui ne veulent pas en fait tout simplement mettre en place certaines choses. Oui, bon bah voilà, moi je voudrais perdre du poids, d'accord. Mais par contre, moi je veux aller au fast-food 3 fois par semaine. Ok. Et puis aussi, il y a un autre point, c'est que vu comme je suis en sevrage alcoolique, tous les jours, à chaque repas, je me fais du Mister Cocktail. Ok, Mister Cocktail, je regarde, je connaissais pas, tu vois, je regarde les calories, je me dis, oh bordel à cul, putain, elle me dit les quantités, mais putain, elle a 1000 calories de Mister Cocktail chaque jour.
C'est énorme, ouais. C'est bourré de sucre.
Voilà, et au final, cette personne attendait surtout que je lui dise, oui, c'est comme ça, c'est votre génétique. Non. Et c'est sûr que, au final, comme je disais, certaines personnes, quand elles viendront te parler, voudront que tout simplement tu viennes. Si du coup elles voient que toi tu es dans le milieu de la nutrition, du sport, que tu as mis en place certaines choses, que toi tu as commencé à changer, elles voudront tout simplement peut-être que tu viennes les rassurer dans leurs excuses. Et malheureusement, tu te rendras vite compte que ça va te demander énormément d'efforts de les faire changer d'avis.
C'est ça.
Et c'est pour ça que honnêtement, ça peut paraître un peu. Honnêtement, tu peux te dire, Denis, c'est un connard. Hein.
Ouais, ça peut paraître un peu hautain.
Voilà, c'est vrai. Mais par du principe que, honnêtement, mes bonnes actions, je les fais chaque jour. J'ai je ne sais pas combien de messages en DM de personnes qui veulent vraiment progresser, qui ont vraiment des questions. Alors, parfois, c'est des questions qui sont plus ou moins intéressantes. C'est des questions. Bref, ces personnes-là, je vais les prioriser par rapport à quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu vois ce que je veux dire
Mais je pense que c'est important aussi de dire à ces gens-là qui espèrent. Avoir une validation de leurs excuses, c'est très bien aussi de leur dire que c'est pas en étant dans cette démarche-là qu'elles vont progresser. Moi, il y a très longtemps, une personne voulait passer par ma boutique pour acheter un programme et en fait, elle m'a dit, moi, je veux acheter le produit, enfin, acheter le physique qu'il y a sur votre site. Alors, c'était une image qui illustrait mon site internet, mais en fait, je lui ai dit, mais en fait, on n'achète pas un physique. On le construit. Mais bon, ça, voilà, c'était important d'aller auprès dans cette démarche, de lui expliquer les choses, parce que je sentais qu'elle avait besoin de comprendre tout ça. Mais j'avais bien vu qu'elle ne voulait pas faire de compromis, qu'elle voulait continuer de suivre ses choix alimentaires qui n'étaient pas très bons, ou du moins qui avaient besoin d'être modifiés. Mais non, mais je veux acheter ce produit, je veux acheter ce physique. Ça m'avait bluffé.
Donc, garde tes calories pour ceux qui veulent vraiment mettre en place des actions concrètes qui vont du coup les aider.
Mais aide les gens dans tous les cas.
Mais voilà, fais tes bonnes actions. Je ne te dis pas d'être un connard. Et si putain, cette fois-ci, les commentaires, ça ne va pas être la coupe de cheveux de Denis. Enfin, quoique, je ne sais pas, ça se trouve peut-être parce que je ne me suis pas regardé.
C'est la mienne aujourd'hui.
Ça se trouve, ça va être putain, Denis, c'est un enculé, quoi. Il économise ses calories. Il veut pas. Ouais, c'est vrai, hein, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Au final, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de messages que j'ai chaque jour. Et c'est justement aussi pour ça que j'étais un peu énervé en début de podcast, dans le sens où moi qui suis prêt à aider les personnes qui veulent être aidées et qui, tu vois, genre dans le podcast, n'importe qui met un commentaire sur le podcast qui est dans les, comme je dis, les 24-48 premières heures, parce qu'après, parfois, ça peut être compliqué pour moi de suivre le fil. Mais
voilà, avez une réponse, ouais.
Vous allez avoir une réponse. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu que c'était sur ma coupe de cheveux que ça parlait, je me suis dit, putain. En plus, au début, très sérieusement, je regarde et il y a des mecs qui disent, ouais, donne pas l'adresse de ton coiffeur. Je dis, bah non, tout le monde va vouloir y aller sinon. Tu vois, genre, au début, je me suis dit, mais c'est bon, c'est les deux, trois premiers commentaires, c'est comme ça.
Ce qui est drôle, c'est que je suis arrivé tout à l'heure, là, avant de tourner le podcast, et Denis me dit, t'as vu ? Et j'ai compris tout de suite qu'il parlait des commentaires YouTube.
Non, mais du coup, voilà. Et pour la première fois, c'est vrai, pour la première fois, si tu regardes, il doit rester deux ou trois commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Parce que au début, j'ai fait l'effort de répondre vraiment au mec qui parlait de mes cheveux. À la fin, j'ai dit, vas-y, nique sa race, je ne réponds pas, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas intéressant. Je préfère conserver mes calories pour autre chose.
Mais Denis n'est pas susceptible pour autant, hein. C'est juste que voilà, le message de fond, hein, ouais. C'est vraiment que…
Le message de fond, c'est t'as un espace commentaire dans lequel on peut parler de plein de choses. Mais mec, mais genre, je sais pas…
Il nous aide au référencement d'une façon ou d'une autre.
Mais même si tu veux parler d'autre chose que du sujet du podcast, en vrai, mais parle de choses plus intéressantes que mes cheveux, s'il te plaît. Vraiment, fais juste cet effort-là. Sinon, bordel à cul.
Voilà, vous allez mettre encore…
Je t'avoue. Touche pas la coupe de cheveux de Denis. Touche pas en bagnole. Sinon, t'es mort.
Je sais pas si vous avez la ref.
C'est drôle, la ref. Ah, c'est des coups. Bon, mon frère, on parle du sommeil maintenant.
Ah, tu veux enchaîner, là?
Eh ben non, ce sera pour le prochain épisode.
Ah ouais, parce que je vais dire, moi, je veux bien, mais on est parti pour une heure de plus, hein, même plus.
Non. Puis, malheureusement, c'est pour ça qu'on disait que, honnêtement, c'est une perte de temps de se coiffer. Déjà, juste de chercher un miroir, parce qu'on n'a pas encore…
Si, je t'en ai mis un.
C'est vrai, on a des miroirs maintenant. Mais du coup, les podcasts sont courts. Et c'est pour ça que dans la prochaine fois, on parlera du sommeil, peut-être. Sauf si on a un sujet plus intéressant.
Non, le sommeil sera toujours un sujet intéressant. Ouais, il viendra tôt ou tard.
Il arrivera.
Disons ça.
Donc, si tu veux pas rater ça, comme on l'a dit, pense à t'abonner. Et mets-le dans voilà, ça, c'est intéressant. Mets-le dans les commentaires. On veut un podcast sur le sommeil. Et comme ça, je viendrai dormir avec toi. Ça va faire monter le référencement. Ça va faire monter le référencement. Mais pas de cardio.
Pas de cardio, non.
Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser.
Merci pour votre écoute. 1100 évaluations sur Spotify. Alors, on n'a pas le détail exact, mais on a encore augmenté.
Il y a quelqu'un qui a dit que ça faisait chier que tu étais dans le podcast.
Il a mis un smiley à la fin.
Ouais, il a mis un smiley, c'est vrai.
Parce que c'est le running gag. Mais en tout cas, merci pour vos retours à chaque fois. Enfin, moi, je n'ai pas autant de commentaires, enfin, du moins de DM sur Instagram, mais tous les commentaires que j'ai, c'est vraiment des super coms sur le podcast. Des personnes qui ne me connaissaient pas et qui viennent par l'image de Denis ou par le podcast et qui me disent, mais en fait, le podcast, merci, quoi. Enfin, c'est juste une pépite. Donc voilà, on vous remet, on vous redonne l'appareil. Merci aussi à vous pour votre écoute.
Merci à vous et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast.
À bientôt.
Je crois que c'est Kevin qui s'entraîne en haut, mon gars.
Il nous a défoncé.
Ah, je pense qu'il a eu quelques sets à Zero RR.
Ça se trouve, on les entend dans le…
Ouais, on va les entendre, je pense.
Micro. Moi, j'avais peur, c'est qu'il y ait de la poussière qui tombe.